Salut à tous, c'est François au micro pour notre deuxième rendez-vous mensuel de 15 on the Rock, le meilleur du hard et du rock entre les années 1968 et 1983. Je me fais un petit plaisir aujourd'hui puisque je ne vais vous parler que d'un seul groupe qui me fascine autant qu'il a fasciné sur une bonne décennie par sa diversité, sa créativité et ses incessantes métamorphoses tous les publics du monde. Amis du hard pur et dur, métalleux, consacré, passez votre chemin. Pour tous les autres, curieux surtout, restez bien branchés sur 15. On consacre l'intégralité de cette émission au groupe anglo-américain Fleetwood Mac. À l'origine, avec son guitariste créateur Peter Green, un Britannique de Londres, Fleetwood Mac est l'un des fers de lance de l'arrivée du Chicago Blues dans la capitale anglaise des années 67-68. Peter Green est l'un des plus grands guitaristes de blues qui ait jamais existé, à mon avis bien meilleur que le surévalué Eric Clapton. Il est au niveau sans aucun doute d'un Howlin' Wolf ou d'un B.B. King. B.B. King qui disait d'ailleurs de lui qu'il était le seul bluesman blanc à lui coller la chair de poule. Les premiers enregistrements de Green et de Fleetwood Mac sont hors créneau, puisque pour nous c'est une date de 67, avec un premier 33 tours intitulé Peter Green's Fleetwood Mac. Mais le suivant arrive dans les bacs en février 68, chez Blue Horizon. Il est l'occasion de montrer l'authenticité et la créativité de Green dans un registre blues très codifié qui pourrait étouffer son talent, mais ça n'est vraiment pas le cas. En témoigne ce premier extrait du groupe qu'on entend aujourd'hui. C'est le superbe Love That Burns, enregistré en 68 et qui révèle un pur génie du blues, Peter Green à la guitare et au chant. C'est l'une de ses compositions d'ailleurs. Love That Burns, 68, Fleetwood Mac.
When the flames of our flesh have stopped burning, and the fire of our love has cooled down, too many times I've given too much. Baby, give me your love. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. Give me your mind and your heart, but please don't leave me with a love that burns. And don't use me as your fool. Cause my heart can't stand another lie. Please don't use me, don't use me as your fool. Baby, cause my heart can't stand another lie. Thank you.
Alors pourquoi le nom de Fleetwood Mac alors qu'en 68, le leader est incontestablement Peter Green? Eh bien, c'est dû à la structure rythmique du groupe. En face de Green, génial mais instable, souvent d'une humeur exécrable, le batteur Mick Fleetwood et le bassiste Jock McVie sont autant les piliers du rythme en studio que sur scène. Et pour la cohésion de la bande, ce sont eux qui sont à la base de tout. C'est cette solidité qui fera perdurer les musiciens jusqu'au Chant du Cygne et le double album de 79, Tusk. Entre-temps, Fleetwood Mac sera transformé en l'une des formations de rock au son californien les plus populaires au monde. Mais restons à leur premier pas londonien. Premier pas qui les mène à se frotter en 69 lors d'une tournée américaine au plus grand bluesman de Chicago. Il joue avec le célèbre pianiste Otis Spann ou encore avec Willie Dixon et ils sont signés cette même année par le manager des Stones, Andrew Oldham. La fragilité de Peter Green lui fera d'ailleurs rapidement quitter la formation à cette même époque. Mais en 69 sort un second LP qui leur ouvre toutes les radios du monde. Le disque porte le nom psychédélique et il faut s'accrocher, The Pious Bird of Good Omen, mot à mot l'oiseau pieux de bon augure, tout un programme. Sur la galette, deux pépites, signées Green. La première, un instrumental languissant, qui s'appelle Albatros, et qui demeure l'un des enregistrements les plus poignants et les plus célèbres du compositeur. Un thème qui atteint la première place des charts en Angleterre, comme aux Pays-Bas, et qui conquiert l'ensemble des radios de la planète. Albatros, Peter Green et Fleetwood Mac, 1969. We'll be right back. Et l'autre tube de cet album est le blues rock Black Magic Woman, que tout le monde pense écrit en 1970 par Santana. Eh bien non, c'est bien une composition de Green, sortie sur l'album de Fleetwood Mac, The Pious Bird of Good Omen. Un hommage de Green à son ami d'alors, qu'il appelait affectueusement Magic Mama. Je vous laisse découvrir ce blues écrit en mineur, au rythme latino, Fleetwood Mac à la fin des 60s, Black Magic Woman.
Got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Peter Green est, on l'a évoqué, en proie à de graves troubles psychiatriques. Il devient de plus en plus mystique, prend régulièrement du LSD, abandonne le judaïsme de ses origines pour devenir chrétien. Il est sujet à des visions hallucinées qui le conduisent à un internement, le premier d'une longue série, jusqu'à son décès à l'âge de 73 ans, le 25 juillet 2020. Donc internement précoce, hein, dès les années 69-70. Avant sa réclusion psychiatrique, il signe avec Fleetwood Mac un ultime enregistrement, 45 tours aussi puissant qu'étrange, un disque qui sort en mai 70 et qui s'intitule « The Green Manalishi with the Two-Pronged Crown », un titre qui est absolument intraduisible. Les paroles semblent évoquer l'argent vu comme le mal absolu. Green prétendait que cette composition lui venait d'un cauchemar dans lequel il était poursuivi par un chien vert satanique qui représentait le fric malsain. Ne cherchez pas. Quoi qu'il en soit, The Green Manalishi est l'ultime chef-d'œuvre de Green. Il se classe 10e dans les charts en juin. Puis Green quitte Fleetwood Mac pour un asile anglais où il entame une longue réclusion.
Day goes to sleep and a full moon looks so black that the darkness cooks. You come creeping around, making me do things I don't wanna do. Can't believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. Got a green minor leashy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love, then slipping away, leaving me here just trying to keep from following you.
De 70 à 75, le line-up de Fleetwood Mac évolue à maintes reprises. Comment remplacer Green, le génie déchu ? Jusqu'à ce que le groupe ait enfin un coup de chance qui va modifier fondamentalement son jeu et le faire entrer dans la légende. En 1974, Mick Fleetwood traîne dans un studio complètement désœuvré en Californie et il entend par hasard un album improbable d'un couple de San Francisco composé d'un guitariste-compositeur, Lindsey Buckingham, et d'une chanteuse qui gratouille un petit peu, Stevie Nicks. Fleetwood flash complètement sur eux, il les intègre dans sa nouvelle formation. La structure de Fleetwood Mac est désormais scellée. Fleetwood et McVie à la rythmique, Christine, son épouse, qui est l'ex-piano de Chicken Shack au piano et à la voix, et le couple d'Américains Buckingham-Nicks. C'est une combinaison qui déclenche une réaction chimique presque pure. Fusionne de géniales harmonies vocales façon Beach Boys, le perfectionnisme de la guitare, les compositions inspirées de Christine McVie et de Stevie Nicks. Et leur premier album, éponyme, Fleetwood Mac, sort en 1975 et se vend immédiatement à 3 millions d'exemplaires, devenant même numéro 1 aux États-Unis. Le son FM, pur pop-rock californien, est né, notamment avec ce vinyle, et on va demeurer là-dessus jusqu'à la fin de la décennie. Alors c'est quoi ce son pop-rock californien, FM? Eh bien, c'est tout simplement cela. Vous êtes sur Radio MDM pour 15 on the Rock et je vous fais partager aujourd'hui la saga du groupe anglo-américain Fleetwood Mac. Après le premier 33 tours de la bande fixé enfin à partir de 1975 dans sa structure définitive, sort deux ans après l'œuvre qui fera de Fleetwood Mac un groupe légendaire, l'album de 1977 Rumours. c'est bien Rummers qui le porte au sommet du son californien. Le disque se vend encore, ce qui est quand même assez étonnant, et ne va pas tarder à aujourd'hui approcher les 50 millions d'exemplaires achetés partout dans le monde. À cette époque, les musiciens sont à cran. Ils sont minés par les ruptures sentimentales internes, notamment des époux McVie et même du duo Buckingham-Nicks. Tous sont plongés dans la cocaïne, mais en studio, ils s'échinent à exorciser leur rancœur dans de superbes mélodies. Un thème représente plus que tout cet état d'esprit particulier, c'est The Chain, un pur chef-d'œuvre né de la contribution de tous. Une introduction signée Christine McVie, puis une mélodie typique des compositions de Buckingham, une batterie décalée, atypique et même arythmique du batteur Fleetwood, une ligne de basse qui fait un pont magnifique du bassiste formidable John McVie et un texte quasi improvisé de Stevie Nicks. Ne cherchez pas, c'est un pur chef-d'œuvre, à mon avis, pour cette formation. Il est bien là, c'est l'album Rummers en 77 et son morceau phare, The Chain, pourtant pas celui, comme souvent, que les radios vont retenir.
Listen to the wind blow.
Quand les disques sortent, la une du magazine Rolling Stone est consacrée à Fleetwood Mac. La revue mandate la célèbre star de la photo, Annie Leibovitz, pour faire le cliché de cette page. Le disque transpire une telle osmose entre les musiciens qu'elle les représente, un peu malgré eux, comme emboîtés dans un même lit. Pour les convaincre, pour cette pause un peu lascive, l'histoire prétend que Leibovitz leur fait livrer une dose conséquente de cocaïne. Christine McVie est la première à accepter finalement de poser, mais le plus loin possible de son mari, et se réfugie pour cette image dans les bras de Buckingham. Jock McVie, lui, lit ouvertement Playboy, Stevie Nicks est enlacé par Fleetwood. Tout sourit comme un symbole pour la galerie. Comment transformer toutes ces tensions en un rock aux mélodies superbes? Eh bien, cela s'appelle tout simplement le talent. C'était un titre extrait de Rumours de Fleetwood Mac, l'album de 77, You Can Go Your Own Way, paroles et musique de Lindsey Buckingham. On est bien dans le style de la formation avec cette musique à la fois aérienne et sophistiquée et des textes intimistes très écrits. Le disque est à ce jour positionné à la 7e place des œuvres les plus vendues dans le monde. Un titre, plus que les autres, cartonne partout sur les radios, c'est Dreams, le second morceau du vinyle de Stevie Nicks. Le single atteint la première place des charts aux États-Unis et Rolling Stone, toujours, l'a placé en 9e position des 500 plus grandes chansons écrites de tous les temps. La basse subtile de McVie, les claviers aériens de Christine, son épouse, future ex-épouse, la batterie attentive de Fleetwood et la voix inégalable de Stevie Nicks, Fleetwood Mac à son apogée en février 77 avec le tube « Dreams ». Deux ans après Rumours, sort le 12e album de Fleetwood Mac, le double disque Tusk, publié en octobre 79. Le groupe est déstabilisé par le succès de Rumours et met plus de deux ans a colonisé un studio pour retrouver l'inspiration. Autant dire que cette œuvre a coûté extrêmement cher à la maison de production Warner. C'est à l'arrivée un double 33 tours très marqué par l'écriture de Buckingham, un album créé à Los Angeles. Buckingham est alors fortement influencé par le punk et la new wave. Il est un fan absolu de Gary Numan, mais surtout des Talking Heads. Et cela est très perceptible sur ce disque, un peu difficile et très exigeant. Malgré sa quatrième place au Billboard américain, ses 2 millions d'exemplaires immédiatement vendus, il est à l'arrivée une déception relative pour le groupe qui ne réitère pas le succès de Rumours. Deux raisons, à mon avis, à ce semi-succès seulement. D'abord, c'est un double 33 tours avec une pochette très artistique qui est vendue sur le marché très cher et hors de portée de la bourse de pas mal d'ados qui ont peu d'argent. Il est ensuite un fourre-tout de toutes les inspirations baroques de l'ensemble des musiciens et se révèle difficile à écouter dans son intégralité et morceau après morceau. Alors aujourd'hui, avec plus de 40 ans de recul, Tusk ressemble un petit peu pour Fleetwood Mac à ce qu'était l'album blanc pour les Beatles dans une richesse dispersée qui a dérouté le public. On découvre à présent le titre éponyme de ce disque, le très bizarre Tusk. Ne soyez pas surpris, ça reste Fleetwood Mac, mais c'est très différent de ce qui se faisait juste avant. Fleetwood Mac va partir défendre son double album Tusk dans une tournée mondiale, d'où sera extrait leur ultime LP, un live, sobrement intitulé Fleetwood Mac Live, qui paraît en 1980. À l'issue, la bande éclate et tous les membres, sauf John McVie, sont consacrés alors dans la décennie des années 80 à des projets solo, avec plus ou moins de réussite pour chacun d'entre eux. Peter Green décède en juillet 2020 après des décennies d'errance schizophrénique et Christine McVie, elle, meurt il y a tout juste 2 ans à l'âge de 79 ans. Ne survivent donc aujourd'hui que Stevie Nicks, Buckingham et John McVie et bien sûr la légende du groupe. Voilà, 15 on the Rock, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était François au micro, assisté d'Arnaud Mora, la technique, que je remercie. On se quitte sur un ultime morceau de Fleetwood Mac, toujours extrait de Tusk. C'est le splendide Sarah, paroles et musique de Stevie Nicks, le plus beau morceau, à mon avis, de leur ultime album. Restez rock, demeurez fidèles à 15. Je vous quitte là-dessus. Salut les amis.
You're the poet.